crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin.
C'est grandir à l'intérieur.
Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
C'est...
un mec dans la rue, mais lui de main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ?
Celle qui ose.
En tant que femme, comme beaucoup de femmes, je pense que je sous-estime tous les moments où je suis prof de DAS. La première fois où je me suis dit « bravo, là vraiment, tu as été courageuse, tu as fait preuve de DAS », c'est quand je suis partie en Ukraine. Je suis partie en Ukraine pour la deuxième fois, avec Soisy Coulier, qui est journaliste reporter d'image, qui est une jeune journaliste. Et on part en Ukraine en octobre 2022, au lendemain d'un déluge de feu russe qui s'abat sur l'Ukraine. Vladimir Poutine répond à la contre-offensive ukrainienne. Il est furieux parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la résistance ukrainienne soit assez forte. La guerre en Ukraine, c'est vraiment le combat David contre Goliath. Voilà. Et donc, en octobre 2022, Poutine décide d'envoyer des bombardements massifs en Ukraine. Et avec Soisy Coulier, on part le lendemain de ce déluge de feu qui s'abat sur toutes les grandes villes d'Ukraine. On est quand même consciente qu'on part à un moment compliqué dans cette guerre en Ukraine qui a démarré il y a quelques mois. Et la mission est extrêmement compliquée. Rien ne se passe bien. On part avec un fixeur qui est particulièrement sexiste, qui n'accepte pas de se voir donner des ordres, des consignes de la part de deux jeunes femmes. Pour ceux qui ne sont pas journalistes, il faut expliquer ce que c'est qu'un fixeur. Un fixeur dans un pays étranger, c'est quelqu'un qui va vous aider à traduire, voilà, qui va vous guider dans un pays, qui va vous aider à caler vos reportages, voilà, et qui va vous aider à trouver des personnages, à trouver des situations, et qui va faire l'intermédiaire entre vous et les habitants, les officiels que vous allez interviewer. Donc le rôle du fixeur est extrêmement important, notamment dans des pays en guerre. Et donc, on doit changer de fixeur en cours de mission, ce qui est très compliqué. Vraiment, avec Soisic, on se bat et on trouve un autre fixeur, un homme qui n'est pas du tout sexiste et qui travaille en couple avec sa femme. Et on va partir dans le Donbass. Le Donbass est en guerre depuis 2014, donc bien avant l'opération militaire spéciale déclenchée par Vladimir Poutine. Et c'est une région ravagée par les combats. C'est le théâtre de guerre le plus dangereux en Ukraine. Et on décide de partir là-bas avec Soisic, évidemment avec l'accord de la rédaction, parce que c'est là où ça se passe, entre autres. Et avec ce couple de fixeurs, on a l'opportunité d'aller suivre la brigade de défense ukrainienne à Barmout. À l'époque, Barmout est encore aux mains des Ukrainiens. C'est la ligne de front la plus dangereuse d'Ukraine. C'est très compliqué d'y aller. Peu de journalistes à l'époque y vont. Et on a l'opportunité d'y aller. Et la direction réfléchit beaucoup, évidemment, avant de nous envoyer, parce qu'évidemment, c'est une mission particulièrement risquée. Que ce soit pour des journalistes expérimentés ou pas. Je demande conseil à Michel Scott, grand reporter à TF1, très expérimenté, qui me dit qu'on a une belle opportunité de reportage et qui me dit « vas-y ». Et donc, j'obtiens le feu vert de la direction. On en discute beaucoup avec Soisic. On en discute beaucoup avec les soldats ukrainiens, parce qu'on ne part pas à n'importe quelles conditions. Les soldats ukrainiens vérifient notre matériel, vérifient notre casque, notre gilet pare-balles, pour savoir si on est armé justement pour affronter la mission qui nous attend à Bakhmout. Quand on arrive à Bakhmout avec Swazi Koulié, le moment où on pose le pied sur le sol à Bakhmout, on entend des... toutes les minutes. Et là, on comprend qu'on est dans une zone extrêmement risquée. On comprend qu'on est dans une zone qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître auparavant. Et moi, j'ai peur. J'ai peur. Et je dis rien à Swazik, parce que je me dis, si je dis à Swazik que j'ai peur, ça risque de compromettre la mission. Et ça fait des jours que je me bats pour l'entraîner hein, dans ce reportage, que je tente de convaincre la direction de nous laisser y aller. Donc, il n'est pas question de reculer. Mais j'ai peur, et je sais qu'elle a peur aussi, et donc je dis rien. On arrive à Bakhmout, et on rencontre la brigade de défense ukrainienne, et ils nous disent, voilà, là, à partir de là, on va courir vers notre QG, voilà, qui se trouve en sous-sol d'un bâtiment dans la ville. Donc, on a vraiment quelques secondes pour se rendre au QG. Donc, on y va en courant. Et donc, on court. Et sur le parcours, Swazi, qui avec sa caméra, qui suit les soldats, tombe. C'est pas du tout le moment de tomber. Parce que c'est une question de vie ou de mort, en fait. On est censé aller le plus rapidement au QG. Et donc, je me dis, non, mais c'est pas vrai. On est dans une phase extrêmement compliquée. Notre mission, elle est compliquée. Et là, ma chérie, elle est tombée. Et elle se relève ensanglantée. Je me dis, mon Dieu, voilà. C'est moi qui ai insisté pour ce reportage. Et ma reporter, elle est mise en danger. Elle est relevée par les fixeurs, avec moi, avec les soldats. Et on continue en courant vers le QG. Les soldats ukrainiens, évidemment, ont la trousse de secours. Sauf que moi, je me dis, mais waouh, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je dois réagir en tant que chef d'équipe. Je dois faire en sorte qu'on prenne soin d'elle. Donc, je lui dis, comment tu te sens? Et elle est toute palote, elle reprend ses esprits, elle prend de l'eau. Je lui dis, comment tu te sens? Je ne veux pas la mettre sous pression parce qu'on s'est battu ensemble pour pouvoir réaliser cette mission. Et à peine arrivée, elle est déjà compromise. Le matériel, par miracle, n'est pas cassé. Mais elle, il faut qu'elle soit en état de poursuivre la mission. Et elle me répond du tac au tac, ça va, on continue. Et il y avait cette idée chez elle qu'on était arrivé jusque-là. Il n'était pas question de repartir sans avoir réalisé notre reportage. Et je me suis dit, waouh, ce que c'est, Swazik, que c'est un petit bout de femme, hein, mais très courageuse. Je me suis dit, génial, notre reportage, on va le faire. Et donc, on y va. Et donc, il faut remonter en surface où on entend poum, poum, poum pour réaliser le reportage. À un moment donné, on se retrouve embarqué dans le camion qui transporte la batterie de missiles. Et donc, on est sur la première ligne de front. Et moi, j'ai un peu peur, mais pas pour moi. J'ai peur pour Swazik en me disant, est-ce que j'ai bien fait de l'entraîner là-bas? Est-ce que j'ai bien fait? Et en fait, pendant le trajet, au lieu de me concentrer uniquement sur le tournage, parce que moi aussi je tourne, hein, je tourne en partie les images avec mon smartphone, je suis à moitié concentrée parce que je me dis, si jamais ça se passe mal, c'est moi la chef d'équipe, c'est moi qui ai décidé d'entraîner tout le monde là-bas, et c'est moi qui devrais rendre des comptes à la direction. Je me dis pas, moi je risque de mourir, je me dis, il faut que je ramène tout le monde à bon port. Là encore, rien ne se passe comme prévu, il y a un problème avec la batterie, donc il faut retourner au QG, il faut revenir sur la ligne de front. Et donc, tout le temps supplémentaire qui est pris, c'est forcément des risques supplémentaires de se retrouver ciblé par l'ennemi. Et finalement, le reportage se passe bien, on a toutes nos séquences et on se retrouve au QG. Le reportage n'est pas terminé, on doit encore interroger les soldats. Mais je me rappelle qu'on a ce moment à 4, avec Swazik, avec notre fixeur et notre fixeuse, Sergueï et Valentina. Et je me dis, là, on se prend dans les bras, tous les quatre. On a ce moment, on est toujours en vie, quoi.
On est toujours en vie. On l'a fait, quoi.
Et on se prend ce moment ensemble pour être fiers de nous, fiers de ce qu'on a fait, fiers des risques qu'on a pris pour couvrir ce conflit, montrer au monde entier le courage des soldats ukrainiens à Bakhmout, qui est encore une fois la ligne de front la plus dangereuse d'Ukraine à ce moment-là. Et donc on monte le reportage avec Swazik, la direction est très contente. Et en rentrant à Paris, c'est la première fois où je me suis dit « Meuf, tu m'as impressionnée. La mission a été compliquée, t'as affronté des difficultés, t'as affronté des obstacles et tu les as surmontés. » Et j'en ai discuté avec une de mes amies. Je lui ai dit « Voilà, c'est la première fois où j'étais fière de moi. » Elle me dit « Mais ah bon ? Pour toi, c'est la première fois où tu as accompli quelque chose d'extraordinaire ?» Mais elle me dit « Mais dans ta vie, t'as fait plein de choses extraordinaires. T'as fait plein de choses qui mériteraient de te dire bravo, t'as pas besoin de la guerre en Ukraine, t'avais pas besoin de cette mission pour être fier de toi. » Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais très souvent en train de minimiser, de dénigrer mes accomplissements. Mais ça a été un déclic. Je me suis dit quand même que si j'avais été capable d'aller là-bas, pas seulement d'aller sur un terrain de conflit, mais d'affronter mes peurs, de surmonter des obstacles, alors j'étais capable de surmonter encore plein d'autres obstacles à l'avenir. Je suis Marie-Aline Méligui, journaliste à LCI, présentatrice, reporter pour la chaîne d'information en continu du groupe TF1 depuis 15 ans maintenant. Et j'étais une enfant curieuse, assez solitaire. J'aimais bien être dans mon monde, à me raconter des histoires. J'étais passionnée par la lecture, par la musique, par la danse, par le fait d'apprendre. Voilà, j'étais heureuse d'aller à l'école pour apprendre. Et ce qui résonne évidemment aujourd'hui avec le métier que je fais, parce que c'est un métier où on apprend tous les jours, où on prend conscience de la dimension de son ignorance. Donc c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ce métier. J'étais une enfant assez disciplinée, voilà, je pense, avec un sacré caractère quand même, gourmande de la vie, gourmande de la nourriture, et qui n'avait aucun problème à rester seule. Ouais. On disait que j'étais une enfant sage, souriante, parce que je débordais quand même d'énergie. Et je pense que je faisais rire les gens, je suscitais de la curiosité. Parce que j'étais sage, mais pas seulement parce que je respectais l'ordre, parce que j'étais dans mon coin, calme, à me raconter des histoires, à être dans mon monde, avec mon imagination. Et donc, je pouvais très bien être avec mes parents quelque part, et puis ils pouvaient me laisser à côté pendant une heure. Je ne m'ennuyais jamais. Alors à l'époque, dans les années 90, il y avait les Polly Pocket. Donc c'était cette petite, alors pour les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais ça avait une forme de coquillage, boîte en forme de coquillage. Et quand on ouvrait la boîte, on avait plein de petits personnages et de décors. Et donc j'adorais emmener des Polly Pocket. Et donc je jouais avec les personnages, je me racontais des histoires. J'avais souvent un livre, j'adorais lire. Donc je pouvais quand même passer des heures dans mon monde. Je viens d'une famille modeste, classe moyenne inférieure, une famille assez aimante, très soudée, avec deux parents, un père, une mère, un petit frère, un schéma, on va dire, assez classique, où les valeurs de la famille, du travail, ont toujours été primordiales, très importantes. Et j'ai toujours été élevée dans l'idée qu'il fallait travailler, se battre pour avoir un toit, tout simplement, avoir un frigo dans lequel il y aurait de quoi se nourrir, avoir un lit, enfin la base. Et je pense que cette notion-là, je l'ai de mes parents qui viennent, eux, de milieux très pauvres. Et
La notion de pauvreté, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on pense que ne pas avoir de téléphone portable ou le dernier smartphone à la mode, c'est être pauvre. Non, être pauvre, ça veut dire on se couche le soir et avec des gargouilles dans le ventre parce qu'on n'a pas à manger. Voilà. Mes parents, ils ont connu ça. Mon père au Cameroun, dans sa famille, et ma mère à Paris, élevée par une femme de ménage, ma grand-mère, qui a élevé ses deux filles seules. Voilà. Et donc, moi, cette notion de que rien n'est acquis, qu'il faut se battre pour vivre décemment, ça, je l'ai eu parce que j'ai eu des modèles de femmes et d'hommes qui ont vécu l'adversité. Donc ça, c'est vraiment une notion qui a toujours été très, très présente. Quand j'étais petite, j'étais très proche de ma grand-mère maternelle. Et c'est la figure qui m'a le plus marquée et qui me marque encore, même si aujourd'hui, elle est décédée. Elle incarne pour moi le féminisme, même si elle ne se revendiquait pas comme étant féministe, parce qu'elle avait fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'audace, qu'elle avait élevé seule ses deux filles en étant femme de ménage, qu'elle s'était battue. Elle m'a vraiment transmis l'importance du travail, l'importance de se battre. Et je me rappelle quand je revenais de l'école avec mes bulletins de notes, qui était plutôt bon. Et je me souviens d'une fois, elle a regardé mon bulletin de notes avec les larmes aux yeux, en se disant « Ma petite fille va réussir là où je n'ai pas pu réussir. » Parce que ma grand-mère venait de milieu très pauvre, que mes arrière-grands-parents n'ont pas eu les moyens de financer les études pour tous leurs enfants, ils ont dû faire des choix. Terrible. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu financer mes études. Et donc, ma grand-mère, en voyant mon bulletin de notes, me disait « Là, tu as entre les mains les clés de ta liberté. Tu seras libre de faire ce que tu veux, si tu fais des études, si tu es indépendante, mentalement, financièrement. Voilà, ça sera la clé de ta liberté. » Et pour moi, c'est ça le féminisme, c'est la liberté. D'être celle qu'on a choisi d'être, celle qu'on a envie d'être, sans se préoccuper du regard des autres, mais en ayant quand même les moyens de sa liberté. Alors, ma mère était comptable et elle s'est arrêtée de travailler quand elle a eu ses enfants. Et puis, elle a repris à mi-temps et elle a beaucoup aidé mon père. Mon père était directeur financier dans un grand groupe franco-allemand qui s'occupait de vendre des joints d'étanchéité dans le secteur industriel, rien à voir avec le journalisme. J'ai reçu une éducation que je qualifierais de stricte, avec la valeur travail et surtout la valeur du respect de l'autre. Moi, ça peut paraître un peu vieux jeu, mais quand je suis dans une boulangerie et que je vois des enfants qui sont en général très jeunes se jeter par terre et faire une crise et que leurs parents ne leur disent rien, je suis choquée. Alors moi, je ne me serais jamais comportée comme ça et surtout, mes parents auraient réagi. C'est une question de respect de l'autre et je trouve qu'on est dans une société où on ne fait plus attention à l'autre. Je vois des gens dans le métro qui conversent en WhatsApp, vidéo, ça fait un bruit dans toute la rame de métro et ça ne les dérange pas. Ils ne se disent pas « mais là, je suis avec d'autres personnes, donc je vais attendre de sortir du métro pour faire ma conversation ». Et c'est toutes ces micro-agressions, ce manque de respect de l'autre qui me choque parce que ça ne correspond pas du tout à la manière dont moi j'ai été élevée, aux valeurs que mes parents m'ont transmises, enfin moi et mon frère. Mes parents n'ont jamais fait de différence entre mon frère et moi. Et s'ils en ont fait, ça n'a jamais eu un rapport avec le fait que moi, j'étais une fille et mon frère un garçon. Et ce qui est assez drôle, c'est que mes parents ne nous ont jamais inculqué des clichés liés au genre. Ce qui est assez drôle, c'est que mon père est très élégant, c'est vraiment une fashion victime. Ma mère aussi est très belle, très élégante, mais je ne l'ai jamais vu avoir une garde-robe avec des sacs de luxe. Pas parce qu'au départ, elle n'en avait pas les moyens, mais aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Et mon père regarde un peu de sport, mais ce n'est pas un passionné de foot, ce n'est pas un passionné de voiture. Alors que nous, mon frère et moi, leurs enfants, on est un peu une caricature. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'adorais les poupées, les paillettes, les robes qui tournaient. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et mon frère est un passionné de sport mécanique, de football, de camion. Quand il était petit, à Noël, il avait reçu un train avec tout un circuit. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des Barbies. Voilà. Mais c'est inné. Ce ne sont pas nos parents qui nous ont incités à aller vers les poupées et mon frère vers la voiture. C'est drôle. Mon père est né au Cameroun. Il est arrivé en France à l'âge de 30 ans pour faire un complément d'études. Et il avait pour objectif de revenir dans son pays et puis d'y vivre. Et il a rencontré ma mère. Et évidemment, ses plans ont changé et ils sont restés en France. Et à partir du moment où mon père est resté en France, il est devenu français, il a acquis la nationalité française, je pense qu'il y a eu un switch. Alors, je pense que c'est aussi une question de génération. Peut-être que les immigrés qui arrivent aujourd'hui en France à 30 ans ont une vision très différente. Mais lui, il était très reconnaissant envers la France de l'avoir accueilli, même si son but n'était pas de venir en France. Il a rencontré ma mère, il est tombé amoureux et il est resté. Mais il était très conscient de la chance d'être français. Il représente tout le débat qu'il y a aujourd'hui entre la différence entre l'assimilation et l'intégration. Mon père, il s'est assimilé. Voilà. Il a... un peu tourner le dos à sa culture africaine, à sa culture camerounaise, mais pas dans une démarche d'abandon, de tristesse. Il est passé à autre chose. Et ce qui fait que je l'ai peu entendu parler Douala, c'est la langue qu'il a apprise, parce que mon père est originaire de Douala et de Consamba. Et donc, c'est moi qui lui ai demandé de m'apprendre un peu quelques mots de Douala. Et il ne tenait pas particulièrement à m'emmener au Cameroun. Sauf qu'un jour, j'ai pris mes billets pour aller à Douala. Et je lui ai dit, j'y vais avec ou sans toi. Donc, tu me suis ou tu ne me suis pas. À toi de voir. Évidemment, il m'a suivi et il valait mieux parce que l'Afrique, c'est un continent qui est à la fois magnifique, mais qui est aussi compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas y aller avec de la naïveté. Pour une Française comme moi, voilà, toujours qui est vécue, née en France, quand je suis arrivée au Cameroun, je m'attendais à ce que la maison de mes grands-parents soit située à une adresse bien précise, bah, comme en France, même s'il y a des villages où il y a toujours un peu une allée. Sauf que là, il n'y a pas d'adresse, en fait. Il n'y a pas de numéro. Donc, il faut aller là-bas avec quelqu'un qui connaît l'endroit, qui connaît la région. Aller au Cameroun, donc dans le pays d'origine de mon père et de mes grands-parents, a été un voyage particulièrement fort pour moi et qui m'a bouleversé moi, mais qui a aussi bouleversé mon père. Il s'est rendu compte que c'était important, en fait, d'emmener sa fille sur la trace de ses ancêtres. Nous sommes allés ensemble se recueillir sur la tombe de mes grands-parents paternels, près de Consamba, et j'ai vu mon père fondre en larmes, comme je ne l'ai jamais vu fondre en larmes. Et c'était un moment très fort qu'on a partagé ensemble. Et on a traversé des champs ensemble, avec évidemment des bêtes partout. Et mon père était très étonné parce que je suis vraiment une caricature de parisienne. Je n'ai jamais vécu à la campagne, je déteste les bêtes. Et il m'a dit, mais je pensais que tu aurais beaucoup plus de mal à t'acclimater, en fait, à marcher dans la campagne, dans la brousse, avec des bêtes, des fourmis rouges qui peuvent te piquer. Finalement, je me suis parfaitement habituée, comme si j'étais chez moi. Donc c'était un voyage très fort qu'on a partagé ensemble. Et je pense que mon père était reconnaissant, que je l'ai poussé, que je l'ai forcé à m'emmener au Cameroun. J'ai pris conscience de la notion d'audace la première fois que j'ai dû me confronter à mes parents. Et je crois que c'était à l'âge de 10-11 ans, j'adorais dessiner. Et j'ai dit à mes parents, je veux être dessinatrice. Et mes parents avaient une amie dessinatrice qui avait du mal à joindre les deux bouts. Et ils m'ont dit, non, c'est pas une bonne idée, tu vas pas réussir à vivre en faisant ce métier, tu devrais faire autre chose. Et j'en ai été assez attristée. Et je me suis dit qu'ils avaient raison, puisque c'était mes parents. Et je me suis dit, comme j'adorais également écrire, poser des questions, que le métier de journaliste pourrait être un plan B. Quand j'avais 14 ans, on a reparlé forcément de ce que je voulais faire plus tard. Et je leur ai dit, je vous avais dit, je veux être journaliste. Et là, ils ont commencé à me dire, tu sais, c'est un métier compliqué, peut-être plus l'édition, tu as des résultats plutôt corrects en maths, peut-être que tu devrais te diriger vers une filière scientifique. Et là, je leur ai dit, non, je veux être journaliste. Et donc, pour moi, la notion d'audace, le basculement, le premier basculement, ça a été celui-là. Oser affronter mes parents, oser s'opposer, non pas au désir de mes parents, plutôt à la peur de mes parents. Parce que mes parents, derrière leur volonté de ne pas vouloir avoir une enfant qui fasse du journalisme, c'était la peur que je me retrouve au chômage, que je me retrouve à la rue. Voilà.
et que je me retrouve dans une situation de pauvreté qu'ils avaient connue. Ils se disaient, on se bat pour offrir des études à nos enfants, c'est pas pour qu'ils se retrouvent dans la même précarité que celle que nous avons connue. Au fil des ans, mes parents se sont rendus compte que ma volonté de devenir journaliste était assez forte. Alors ma mère, elle est très maligne, elle était inquiète et donc elle était plutôt dans la proposition, réfléchis, regarde ce qui se passe à côté, il y a d'autres filières, donc on était ensemble. Et mon père, lui, était plutôt dans l'affrontement. Et pour lui, le journalisme, c'était vouloir être saltimbanque, c'est un métier d'artiste, d'enfant de la balle. C'est comme si j'allais gâcher ou tirer un trait sur toutes les valeurs qu'il m'avait inculquées. Et donc, pendant des années, ça a été un affrontement. Il était, mais désolé, quoi. Après le baccalauréat, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, Hippocane-Cagne, 1 et 4. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire à la Sorbonne et j'ai préparé un seul concours d'école de journalisme, l'école de journalisme de Sciences Po. Donc, c'était un pareil, hein, de préparer une seule école, mais c'était celle que je voulais faire. Celle-là et pas une autre, ce qui correspond à mon caractère. Hein. Souvent, j'ai une idée en tête et je n'ai pas de plan B. Et j'ai été acceptée. Et pendant ces années, j'ai obtenu une bourse, la bourse France Télévisions. Et donc, j'ai passé 2 ans à l'école de journalisme et à France Télévisions, à France 3 Nationale, au service Infogéné. Et ensuite a démarré une période de pige. Alors, pour ceux qui ne sont pas journalistes, être pigiste, ça veut dire travailler à la journée ou travailler sur des contrats courts, très précaires. C'est une période que je n'ai pas très bien vécue parce que je pense que je suis vraiment faite pour travailler dans une rédaction. J'adore le collectif et pas être un électron libre. Pendant un an et demi, j'ai erré comme ça entre différentes boîtes. Et parfois, je n'ai pas travaillé. Hein, parfois, je me suis retrouvée au chômage avant d'atterrir à LCI. Et arriver à LCI a été très, très compliqué. À l'époque, le recrutement était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Et j'ai insisté, j'ai appelé, j'ai envoyé des lettres. Et je me souviens que la DRH de l'époque refusait de me recevoir. Elle m'a dit « on a besoin de personne ». Je me souviens, c'était en 2008, je me suis retrouvée au pied du mur. J'avais envoyé plein de CV, on m'avait dit non partout. Et je me suis dit, la vérité, c'est que la seule rédaction où j'ai vraiment envie d'entrer à l'instant T, c'est LCI. Alors, il va falloir se battre. Il va falloir faire preuve d'audace et réfléchir. Puisque tu n'as pas réussi à entrer par la porte, il va falloir entrer par la fenêtre. Et donc, j'ai écrit à un professeur, Laurent Dresner, qui enseignait à Sciences Po, mais qui n'avait pas été mon professeur. Et j'ai bien fait, parce qu'au moment où je lui écris, je ne sais pas qu'il vient tout juste d'être nommé directeur adjoint de la rédaction de LCI, et donc qu'il a un poste extrêmement important. Donc, j'ai envoyé mon CV. Et j'appelais LCI et je tombais sur l'assistante du directeur adjoint de la rédaction, Patricia Alarcon, qui est une femme extraordinaire, généreuse, chaleureuse. Et toutes les semaines, je l'appelais pour savoir si le patron d'LCI avait reçu ma lettre. Et toutes les semaines, elle me disait « Oui, il ne vous oublie pas, il va vous rappeler. » Et ça a été notre rituel à toutes les deux pendant des semaines où je l'appelais, je crois que c'était le vendredi, pour lui demander si j'allais pouvoir obtenir un rendez-vous avec le patron. Et puis, je finis par obtenir un rendez-vous avec Laurent Dresner et avec Vincent Le Baron, qui est le DRH de l'époque. Et il me parle assez rapidement de l'antenne. Et à l'époque, la présentation ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux faire, c'est du reportage, être rédactrice. C'est ce que je veux faire depuis toujours. Mais je sens bien, quand il me parle de l'antenne, est-ce que ça vous intéresserait la présentation ? Il ne faut pas répondre non. Il ne faut pas se fermer de porte. Et je lui dis oui, pourquoi pas ? Je suis ouverte à tout. Je suis pleine d'enthousiasme. Je regarde LCI tous les jours. Ils sentent à quel point j'ai envie d'entrer à LCI. Et ils me disent, on va vous recontacter. Mais pas vous recontacter en disant oui, on vous rappellera. Je sens que c'est sincère et que ça a matché. Mais personne ne me rappelle. Et ça dure pendant des semaines. Alors, le petit rituel reprend avec son assistante. Il dit oui, là, on est très occupé parce qu'il y a l'actu, je crois que c'est à l'époque du tsunami, donc les rédactions sont mobilisées sur cette actu terrible. Mais il va vous rappeler. Et LCI finit par me rappeler et il me donne un rendez-vous pour passer un test. Le jour du test, mon père m'accompagne. Mon père, qui pendant des années a essayé de me dissuader de faire ce métier, et j'ai le nœud, la boule au ventre, vraiment, je me tords de douleur dans la voiture, et il me fait « mais ça va aller ma fille, ça va aller ». Et c'est lui en fait qui y croit. Cette fois, il y croit. Je pense qu'il s'est dit « cette fois, elle va réussir, sa volonté va payer ». Et c'est moi qui ne comprends pas pourquoi il y croit plus que moi. Et donc, je passe le test. Et en sortant d'LCI, je me dis, j'ai réussi le test. Je ne sais pas si on va me rappeler, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir. Et 3 jours plus tard, LCI m'appelle pour que j'intègre le volet de leur pigiste. Preuve que finalement, ils avaient quand même des besoins. Quand j'arrive à LCI en 2009, c'est un monde très sexiste. Voilà. Où ce sont les hommes qui dirigent. Il y a une fausse parité. C'est-à-dire que quand j'arrive dans la rédaction, oui, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a même plus de femmes que d'hommes à LCI. Mais les postes de décision sont occupés par des hommes. Voilà. Quand on voit des journalistes partir en reportage de guerre, ce sont essentiellement des hommes. L'interview politique est menée par un homme. La matinale, c'est un couple, mais c'est quand même l'homme qui domine, c'est l'homme qui fait les interviews, c'est l'homme qui donne le tempo. Et donc, moi, j'arrive avec ce modèle-là, mais qui était le modèle de toutes les rédactions. Hein. LCI n'était pas particulièrement sexiste par rapport aux autres. Et j'avais été voir le patron de l'époque en disant « Moi, je rêve d'être envoyé en direct, même pour aller faire des directs sur des grèves, des choses très, très simples. Hein. Je ne demande pas à être envoyé devant l'Élysée pour parler d'un remaniement. » Et mon patron de l'époque m'avait dit « Oui, mais écoute, nous, on a un volet de duplexeur et on n'a pas envie d'en changer. Donc, on t'enverra le jour où il n'y aura plus personne de disponible. C'est comme ça. » Et ce jour-là arrive. Un jour de vacances scolaires, le volet de journalistes expérimentés qui sont envoyés en duplex ne sont pas là. Et il y a un jeune journaliste homme qui est arrivé dans la boîte quelques mois après moi, et moi. Un jour où il y a un braquage d'une banque et il faut envoyer quelqu'un en direct. Et donc, moi je pense qu'ils vont m'envoyer moi. Et non, ils décident d'envoyer un collègue, un homme, qui est dans la boîte depuis moins longtemps que moi, mais c'est lui qui l'envoie. Et parce que c'est un homme, c'est un rédacteur en chef homme qui a le réflexe d'envoyer un homme pour aller faire un direct devant une banque, voilà, pour un braquage de banque. Je me souviens, je ne dis rien, je suis mortifiée et je m'effondre en larmes en sortant d'LCI. Et je me dis, là, c'était l'occasion pour moi d'être en direct et on a préféré envoyer un homme à ma place. Et je ne vais jamais y arriver. Et je me dis, très bien. Il va falloir te battre en tant que femme 10 fois plus que les hommes pour qu'on t'envoie en direct. Alors, j'appelle un de mes amis qui est JRI, journaliste reporter d'images. Je lui raconte ce qui s'est passé. Je lui raconte, je suis encore en pleurs. Je lui dis, aide-moi. On enregistre ensemble un faux direct devant France Télévisions. Je sais plus ce que je raconte. Je vois mon patron. Je lui dis, écoute, j'ai compris. Je sais que tu vas m'envoyer en direct. Regarde cette cassette, j'ai enregistré un faux direct avec un collègue. Dis-moi ce que tu en penses pour que je puisse m'améliorer. Et le jour où tu penseras que je suis prête, tu m'enverras. Mon patron, il est sidéré. Il me regarde comme ça. Il me dit OK. Voilà. Je vous jure, on n'a jamais reparlé de ce jour. Je n'ai jamais su s'il avait regardé cette cassette, ce qu'il en avait pensé. Mais une semaine plus tard, il m'envoie en direct pour couvrir un meeting politique. C'était une manière de me dire, j'ai entendu, je fais le choix de te donner ta chance. Et j'ai fait mon direct, j'ai pas dormi la veille, j'avais bossé tout le meeting. Et donc, il m'envoie en direct. J'ai la boule au ventre, mais je suis tellement contente. Il me rappelle pour débriefer. Il me dit, mais t'as appris ton texte par cœur, t'avais même pas de fiche. Et j'ai fait, oui. Il me fait, d'accord, ok, c'était bien. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont envoyé en direct régulièrement. Et voilà, le verrou avait sauté, j'étais lancée. Je pense que le syndrome de l'imposteur, comme on dit hein, chez les femmes, il dépasse largement les frontières du journalisme. C'est vraiment un problème de société, de matrice. Ouais, de matrice. Ça fait des siècles et des siècles qu'on apprend... aux femmes, que leur place, c'est d'être souriante, silencieuse, de ne pas trop déranger. La place d'une femme, c'est pas d'être sur le front, c'est pas d'avoir de l'ambition, c'est pas de se réaliser en tant qu'être humain, en tant que femme. C'est d'être là où la société veut qu'elle soit. Mais c'est pas terminé, le combat n'est pas terminé. J'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je vais vous raconter une autre anecdote. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je suis invitée par un club d'affaires à venir raconter mon parcours lors d'une matinée inspirante. Et ce club d'affaires invite des gens au parcours assez incroyable. Ils ont une liste d'invités assez impressionnante. Ils ont reçu l'animateur Thierry Ardisson, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, l'ancienne ministre animatrice Roselyne Bachelot. Ils me disent, voilà, on a envie de t'inviter toi, pour que tu nous racontes ton parcours. Et j'accepte, je suis honorée, mais ce que je ne leur dis pas, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas digne de l'invitation, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Enfin, je suis beaucoup moins intéressante que Thierry Ardisson ou Roselyne Bachelot. Ils vont être déçus, ils vont se dire, on rend notre carte, j'exagère. Et j'ai fait quasiment une nuit blanche, la veille de cette matinée inspirante. J'ai travaillé sur ce que j'allais dire, j'ai fait un plan, j'ai réfléchi aux extraits de reportages que j'allais montrer, aux extraits d'émissions. Et je me suis dit, bon, ok, tu n'es pas Thierry Ardisson, tu as des choses à raconter. Et il faut qu'ils ressortent de cette matinée en disant, ils ont appris des choses sur le métier de journaliste. Voilà. Je vais leur raconter des coulisses de l'information. Et ils vont se dire, ok, peut-être qu'elle n'est pas connue, elle, mais on a appris des choses passionnantes sur ce métier. Voilà. C'est la carte que je vais jouer. Finalement, dans le feu de l'action, je ne respecte pas exactement le plan que j'avais écrit pendant la nuit. Et je me souviens que je raconte un moment très fort que j'ai vécu à l'antenne. J'ai reçu une jeune femme qui avait été victime de harcèlement scolaire. Elle raconte un moment terrible où ses harceleurs ont failli la tuer. Ils voulaient la brûler vive. C'est un moment extrêmement fort. Et moi, au moment où elle raconte l'horreur, je n'arrive plus à parler et je me mets à verser une larme, à pleurer un peu. Voilà. Et elle aussi se met un peu à pleurer. C'est un moment très fort que j'ai vécu en télévision, un moment où on fend l'armure. Et je montre ce moment aux membres de ce club d'affaires et je vois que certaines personnes, des femmes, sans surprise, se mettent à pleurer. Et je me dis, je les ai touchées. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de matinées inspirantes où les membres du club se sont mis à pleurer. Et je me suis dit, ok, là tu as réussi ton pari. Cette matinée leur a permis de comprendre plein de choses sur mon métier. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un échange fort. Et on n'a pas besoin d'être extrêmement connu pour toucher les gens, pour parler aux gens. Et je me suis dit, à la fin, ça aurait pu se passer sans que je me fasse des nœuds au ventre, sans que je passe une nuit blanche, sans que je passe encore des heures à me dénigrer et des heures à me dire que je ne devrais pas être là. Et je me dis, waouh, il y a encore du boulot. Hein. Voilà. Parce que les sociétés occidentales ou non occidentales sont matrixées hein, par l'idée que la femme est inférieure à l'homme. Le conseil que je donnerais à une jeune femme qui se lancerait dans le journalisme aujourd'hui, c'est de se battre, parce que c'est un métier très difficile, qu'on soit un homme ou une femme, et de ne pas se préoccuper du regard des autres. Alors c'est facile à dire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, que suivre ses propres conseils, mais je pense que c'est important. Je pense que même si il ne faut pas tomber dans la caricature, il y a aussi des hommes qui ont un syndrome de l'imposteur, qui se posent des questions, qui ont peur, mais le syndrome de l'imposteur touche quand même beaucoup plus les femmes. Et moi, je vois dans la rédaction et je vois qu'au fil des ans, la plupart des hommes, quand ils ont envie d'obtenir un poste ou de réaliser une mission, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se disent pas « est-ce que je suis à la hauteur ?» Ils se disent « j'ai envie de ce poste, j'ai envie d'être payé à la hauteur de ce que je mérite, j'ai envie d'aller sur ce terrain-là, donc j'y vais, je m'affirme. » Et donc, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de s'affirmer. Et peu importe le regard d'autres hommes ou d'autres femmes, ce qui compte, c'est d'être en accord avec soi. Et on ne peut pas reprocher à une femme d'être ambitieuse. Le mot « ambition », quand il est rattaché à une femme, il est vu comme un défaut. C'est mal d'être ambitieuse quand on est une femme, alors que c'est une qualité quand on est un homme. Moi, je pense qu'il faut assumer son ambition. Il n'y a rien de mal du moment qu'on n'est pas en train de marcher sur des cadavres et de faire du mal aux autres pour réussir. Oser s'affirmer, oser être soi, c'est le conseil que je donnerais aux femmes. J'ai aussi envie de rajouter que j'ai le sentiment, en tant que femme, qu'on est à une période charnière où tout est enfin possible pour les femmes. La révolution MeToo, même s'il y a des excès, même s'il y a des contestations, elle a ouvert le champ des possibles. Elle a ouvert des portes pour les femmes. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire aux femmes, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, on vit un moment de révolution. On vit un moment où il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous et qu'on doit saisir. C'est maintenant pour nous les femmes.
À chaque matin.
Alors, vous avez aimé ce nouvel épisode de Celles qui osent ? Bah, on espère, parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est, si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite.
Si un mec dans la rue, mais lui, non, est-ce que tu l'as déjà fait ?